Bonjour.
En attendant la vague, ce deuxième week-end de confinement devrait être un week-end test pour la situation sanitaire en France. Le pic de l'épidémie est attendu pour la fin de semaine. De nombreux hôpitaux pourraient être saturés, notamment en Île-de-France. On fait le point dans un instant avec notre invité, professeur de médecine. Dans le Grand Est, les évacuations de patients malades s'accélèrent en TGV demain vers la Nouvelle-Aquitaine ou bien ce matin par hélicoptère militaire de Metz vers l'Allemagne. Face aux contaminations de plus en plus nombreuses sur les lieux de travail, les syndicats montent au créneau pour demander l'arrêt des activités non urgentes, notamment chez Amazon, où un premier cas vient d'être annoncé. Des maraîchers s'organisent pour développer la vente directe et les initiatives se multiplient en milieu rural où de nouvelles solidarités s'organisent. On en parle également dans un instant avec le vice-président des maires ruraux de France. C'est dans ce contexte que le professeur Raoult publie une nouvelle étude concluante de son point de vue sur le traitement du Covid-19 par la chloroquine associée à une autre molécule. On verra ce qu'il faut en penser. Le gouvernement de son côté resserre les boulons dans sa communication de crise. Le Premier ministre qui a décidé de prendre la main répondra cet après-midi en compagnie du ministre de la Santé Olivier Véran à toutes les questions que se posent les Français partout dans le monde. Les mesures de confinement se développent en Irlande, au Mexique, en Russie où Vladimir Poutine a ordonné la fermeture des bars et restaurants. Et puis partout, il faut penser à passer son temps le plus intelligemment possible. En fin de journal, nouveau conseil du service culture de France Inter. Enfin, on se consolera peut-être de cette situation en écoutant la météo, pas franchement optimiste, notamment du côté des températures.
France Inter.
Affronter la vague qui s'annonce, c'est donc la priorité de ce week-end, deuxième week-end de confinement. Le Premier ministre a prévenu, le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint et ne le sera pas, selon les experts, avant la fin de la semaine prochaine au mieux. Le bilan des dernières 24 heures est lourd, avec 299 décès supplémentaires, soit 1995 morts au total et plus de 400 patients de plus admis en réanimation. Les hôpitaux pourront-ils faire face? Les évacuations s'accélèrent dans le Grand Est, en direction notamment de Nouvelle-Aquitaine, et l'Île-de-France s'inquiète malgré la réorganisation des services et l'augmentation du nombre des lits. Pourra-t-on éviter la saturation? Les personnels sont déjà sous tension. Illustration à l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement. Timur Öztürk.
C'est enfin le week-end pour Catherine, aide-soignante en anesthésie. Un peu de repos nécessaire face au rythme éreintant qu'impose le coronavirus à l'hôpital.
Spécialement en réa, on arrive à des semaines de 60 heures. L'habillage, c'est hyper fatigant. Le choix des patients sur lesquels on va donner plus de soins ou on va laisser partir tout doucement, c'est aussi contraignant psychologiquement.
Les soignants se dépensent sans compter et les conséquences se ressentiront plus tard.
Ils donnent tellement pour l'instant que je pense qu'après il va y avoir le retour de bâton et les gens vont être fatigués. Un corps fatigué est quand même plus malade rapidement.
Plusieurs de ses collègues sont déjà infectés. Tenon admet de plus en plus de malades, mais pour Catherine, le pire est encore à venir.
On n'est pas en pic de l'épidémie.
François, dermatologue, réaffecté aux soins des patients qui n'ont pas le coronavirus, est d'accord avec elle.
Pour l'instant, ça va. Je pense qu'il faut garder en tête qu'on est sur un marathon et qu'on n'est pas sur un sprint parce que ça va être très très long encore. Il reste au minimum encore un mois de combat.
Une simple estimation, difficile de voir plus loin. À Tenon, les plannings des soignants et l'affectation de renforts est décidé au jour le jour par une cellule de crise.
Tout le monde sur le pont à temps plein. Illustration également avec Thomas Charabas, arbitre du top 14 de rugby, privé de match donc depuis bientôt un mois. Il est surtout en l'occurrence médecin à l'hôpital de Bayonne et se retrouve, c'est le cas de le dire, en première ligne face au virus. Son quotidien, c'est désormais le service des urgences avec des gardes de 12 ou de 24 heures qui s'enchaînent. Amaya Cazenave.
Connu pour son franc-parler sur le terrain, Thomas Charabas n'y va pas par quatre chemins pour évoquer la crise sanitaire du coronavirus. Il parle de médecine de guerre pour faire face à cette pathologie atypique, extrêmement transmissible. Il espère que désormais tout le monde a bien pris conscience de la dangerosité de ce virus.
Sur le terrain, j'ai suffisamment d'armes pour m'aider à faire respecter tout ça avec des pénalités, des cartons. Moi, en tant que médecin, pour obliger les gens à respecter le confinement, j'ai pas beaucoup de moyens. Je ne peux qu'inciter les gens à prendre conscience de l'importance de la santé publique, mais on peut pas continuer à avoir des gens qui vont se balader en famille à quatre sous prétexte qu'ils font du sport, c'est faux.
Urgentiste depuis 4 ans à l'hôpital de Bayonne, son travail, à lui, c'est de trier, prioriser les patients.
Là, on a beaucoup de patients qui arrivent. Certains sont en état grave pour lesquels on est obligé de prendre des décisions de réanimation lourde rapidement, en peu de temps et pour un nombre important d'entre eux.
Il se prépare à des jours difficiles, Alors en attendant, entre deux gardes, il essaie de se changer les idées et de courir autour de chez lui pour éliminer les nombreux gâteaux et sucreries apportés par les proches des patients.
Premier invité de ce journal, Romain Sonneville, professeur de médecine intensive à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors on dit que l'Île-de-France, les hôpitaux d'Île-de-France sont au bord de la saturation, vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Donc on fait face actuellement, comme vous le savez, à un afflux de malades constant dans les hôpitaux parisiens et en Île-de-France, avec beaucoup de patients qui vont nécessiter une prise en charge en soins intensifs, en réanimation. Et donc on voit les capacités de saturation qui sont en train d'être atteinte effectivement avec tout le monde qui est sur le pont actuellement, la semaine comme le week-end.
Le plus inquiétant pour vous, c'est quoi? Le manque de lits, de respirateurs, de personnel?
Alors effectivement, un des points les plus importants pour nous au niveau de la réanimation, c'est la disponibilité des places de réanimation qu'on dit lourdes, hein, donc qui permettent un accès à la ventilation artificielle, hein, qui est une place importante du traitement de ces patients. Et donc on est en Île-de-France avec un regard très précis sur le nombre de places disponibles qui nous sont communiquées plusieurs fois par jour. Et donc on voit effectivement que ce nombre de places se réduit jour par jour. Et donc on espère qu'on va pouvoir faire face, mais c'est très 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 compliqué.
Alors faudra-t-il en venir aux évacuations comme on le fait dans le Grand Est ?
Alors aujourd'hui à midi, on n'est pas encore à discuter ça, mais ça a été bien sûr anticipé au niveau de la cellule de crise de l'assistance publique. Hein, c'est des mesures qui sont discutées et qui peuvent être mises en œuvre en 24 ou 48 heures si c'est nécessaire. Alors ces mesures, elles sont possibles, mais je pense qu'elles ne concernent que quelques malades ou quelques dizaines de patients, au mieux dans des centres qui sont moins impactés en temps réel, là actuellement. Mais il va falloir quand même développer des moyens locaux pour faire face à cette pression, puisque là c'est 1500 patients en réanimation en Île-de-France. Et donc ce chiffre va encore augmenter dans les jours qui viennent, comme vous le savez.
Alors on peut imaginer aussi de raccourcir par exemple la durée des hospitalisations?
Alors ça c'est effectivement un point extrêmement important dans la prise en charge des patients. On a un flux de patients qui s'améliore et qu'on va devoir gérer. Et ce flux, la gestion de ce flux va peut-être permettre de libérer des places de réanimation pour d'autres malades plus graves à la phase aiguë. Et donc ça c'est ce sur quoi on est en train effectivement de travailler, de se focaliser pour essayer d'avoir donc des places d'aval pour des malades qui récupèrent, qui nécessitent encore des soins intensifs, mais peut-être avec une intensité un peu moindre. Et donc ça effectivement ça permettra de libérer des places. Et peut-être d'améliorer la prise en charge initiale.
Et qu'en est-il des hôpitaux privés? Ils se sont dit prêts, hein, bien sûr, à accueillir des patients. Est-ce qu'on envoie des patients malades dans les hôpitaux privés?
Alors bien sûr, les hôpitaux privés participent. Donc c'est beaucoup de structures qui sont, pour certaines, qui n'ont pas l'habitude de prendre en charge des patients de réanimation graves. Mais néanmoins, c'est des structures qui peuvent être amenées à prendre en charge d'autres patients ou des patients qui sont en train de récupérer. Et donc je sais d'expérience que nous, on a été amené à contacter certaines structures qui ont pris en charge déjà des patients. Et donc bien sûr, c'est une aide qui est indispensable et majeure dans la prise en charge actuelle et dans la gestion de cette situation.
Donc quand on parle d'une éventuelle saturation des hôpitaux, on prend bien en compte les places dans le privé?
Alors nous, on a une lisibilité très claire sur les places d'aigu en Île-de-France, hôpitaux AP et hors AP, et donc on a cette disponibilité qui est affichée. La capacité pour le privé, elle est aussi évaluée. Donc moi, personnellement, j'ai moins de chiffres là-dessus, mais c'est quelque chose qui est évidemment pris en compte, hein, dans la vague qui est en train d'arriver, quoi.
Alors on parle d'un week-end test, c'est vraiment le cas? Tout se joue ce week-end?
Alors je sais pas, oui, tout se joue ce week-end. Nous, ça fait plusieurs semaines qu'on est impacté déjà avec une prise en charge de tout, enfin, uniquement de patients Covid-19 dans le service. C'est clair que ce week-end, la gestion des lits restants va être déterminante. Il va falloir faire sortir des patients, il va falloir libérer des lits puisque l'afflux de malades augmente. Et donc c'est clair que là, samedi midi, tous les médecins de l'hôpital sont sur le pont. On est vraiment complètement mobilisé. Et effectivement, on espère que le week-end va passer et qu'on va être en capacité de déployer ce qu'on a prévu localement et sur l'Île-de-France.
Romain Sonneville, professeur de médecine intensive à l'hôpital Bichat à Paris. Merci beaucoup à vous. C'est la mobilisation générale contre l'épidémie, on vient de l'entendre. L'armée a aussi été mise à contribution de façon chaque jour plus importante. Il y a cet hôpital de campagne installé à Mulhouse. Le déploiement annoncé de 2 porte-hélicoptères sur la zone Guyane-Antilles et dans l'océan Indien dans les jours qui viennent. Il y a aussi les transferts par hélicoptère qui sont appelés à se multiplier, comme ce matin l'évacuation de 2 malades de Metz vers l'Allemagne. C'est l'opération Résilience annoncée par Emmanuel Macron. François Pelleret à Metz.
L'hélicoptère s'est posé sur l'immense parking du parc des expositions qui se trouve juste à côté de l'hôpital Mercy, c'est au sud de Metz. Il n'a pas utilisé l'héliport du centre hospitalier régional car cet appareil de type NH90 Caïman présente un trop grand gabarit. Il appartient au régiment Mosellan de Falsbourg, c'est à la frontière avec le Bas-Rhin. C'est le premier régiment d'hélicoptères de combat qu'il met à disposition dans le cadre de l'opération Résilience. L'engin est donc parti à 9h avec à son bord 2 patients qui se trouvaient en réanimation. Leur point de chute est l'hôpital d'Essen au nord-ouest de l'Allemagne, c'est près de Dortmund. Ce sera le seul vol de la journée. Tôt demain matin, des patients de l'hôpital Mercy encore rejoindront le train médicalisé destination le sud-ouest.
D'autres transferts seront également organisés au fur et à mesure des besoins, y compris en hélicoptères, qui sont ces hélicoptères limités bien sûr en nombre de places, parce qu'il faut les équiper tout spécialement pour l'occasion, comme l'explique à Nathalie Hernandez, le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Barbry.
Pour l'armée de terre, c'est un véritable défi. C'est un défi pourquoi ? Parce que c'est une pathologie particulière et qui a donc nécessité un environnement dans la soute de l'hélicoptère Caïman, un certain nombre d'adaptations, notamment pour protéger l'équipage et protéger bien évidemment le personnel soignant, en l'occurrence le SAMU, qui va accompagner ces 2 patients. En temps normal, un hélicoptère de type Caïman engagé en opération extérieure, il a une capacité d'évacuation sanitaire jusqu'à 5 blessés légers et 2 blessés de type lourd. Là, il s'agit de pouvoir transporter en toute sécurité 2 patients lourds en réanimation et intubés. Des mesures de sécurité ont été prises pour que notamment le cockpit de l'hélicoptère soit hermétiquement fermé vis-à-vis de la soute pour éviter tout risque de contamination. Et ensuite, à l'issue de ce vol, il y aura une partie de désinfection qui sera opérée par d'autres militaires du 2e régiment de dragons qui vont permettre de pouvoir éventuellement réapprovisionner et renouveler un vol de ce type.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
On parlait de la chloroquine juste avant ce journal avec Ali Badou, cette chloroquine que beaucoup de Français aujourd'hui réclament. On a dit les réticences de la communauté scientifique vis-à-vis de ce médicament qui n'a pas fait l'objet des procédures habituelles et nécessaires, pas été suffisamment testé. Son promoteur, le professeur Didier Raoult, qui l'avait testé dans un premier temps sur 24 patients, a publié de nouveaux résultats sur Internet. Sophie Becherel, il confirme que la chloroquine associée à une autre molécule peut faire baisser la charge virale des patients malades du Covid-19.
Cette fois-ci, l'étude qui n'a pas fait l'objet d'une relecture par les pairs et dont on ne sait pas à quelle revue scientifique l'équipe de Marseille compte la proposer, cette étude donc a inclus 80 patients dont 6 étaient déjà dans le premier groupe. Moyenne d'âge 52 ans. 54% avaient les premiers symptômes du Covid-19, mal de gorge, nez qui coule, tout. 41% étaient plus atteints, bronchite ou pneumonie. Tous ont reçu pendant 3 jours minimum, mais jusqu'à 10 jours, du plaquenil, la fameuse hydroxychloroquine et un antibiotique, l'azithromycine. Il n'y a pas de groupe contrôle, c'est-à-dire des personnes qui, en parallèle, n'auraient pris qu'un placebo ou rien du tout. Cette comparaison permet d'objectiver le résultat. Sinon, on ne sait pas si spontanément les personnes malades ne vont pas guérir. Conclusion de ce nouvel essai, 8 jours après le début du traitement, la charge virale était négative chez 93% des malades. Un succès pour l'équipe du professeur Raoult, pour qui l'urgence actuelle, c'est de soigner. Éviter surtout que les patients avec pneumonie évoluent vers une situation plus grave, car bien souvent alors, ils ne s'en sortent pas. Il estime que faire diminuer la quantité de virus dans l'organisme est essentiel. Et en ce sens, avec les 80 personnes reçues dans son institut, il ne fournit certes pas une étude scientifique, mais il affirme qu'il fait mieux qu'avec les autres traitements testés. 3 patients sont actuellement en soins intensifs, 1 est décédé, ça fait 5% de son groupe. À leur arrivée, aucun n'était vraiment en état très grave, alors que c'est précisément à ces personnes en état grave que les autorités ont accepté de réserver l'hydroxychloroquine.
En rappelant qu'à l'inverse, une étude clinique chinoise publiée début mars concernant 30 patients n'avait pas constaté d'efficacité particulière de la chloroquine. Cela dit, le meilleur traitement, évidemment, c'est celui dont on n'a pas besoin. Le mieux, c'est donc toujours d'éviter les contacts, notamment notamment au moment de faire ses courses. Les marchés ont été interdits, sauf dérogation demandée par les maires, on va y revenir. Des maraîchers ont trouvé la solution en choisissant la vente directe. Ça fait moins de monde à la fois. Et les consommateurs, évidemment, apprécient, comme ici, près de Nantes. Béatrice Duquet.
Le Leroux-Bottereau, paysage de serres agricoles et de champs de légumes, à une dizaine de kilomètres des marchés nantais.
Les courses sont faites.
Deux cabas bien remplis pour Nathalie, cuisinière en collectivité.
Alors là, j'ai pris des carottes, des poireaux, des choux, de la salade, des tomates. Tout ce que voilà pour faire la semaine, pour manger un peu équilibré. On en a un peu marre de manger des pâtes.
Nathalie vient de faire ses courses familiales au point de vente direct de l'accueil des champs chez Thierry Terrien. Et pendant que le maraîcher cultive, sa femme Françoise, laborantine dans la vie et des employés, accueille les clients.
C'est nous qui servons, vous avez vu, on a des gants, des masques. On respecte absolument toutes les conditions pour ne pas contaminer les gens et nous. On protège tout le monde.
Des précautions qui rassurent, notamment Eliane et Nathalie.
Déjà, c'est peut-être plus sécurisant que d'aller en grande surface.
On est plus d'un mètre de celle qui nous sert, on ne touche pas les légumes, personne ne les touche à part eux, ils ont des gants. Ça a l'air d'être parfait, elle met les mains dans la javel après nous avoir servi, donc je me dis que voilà.
Le point de vente fonctionne très bien, mais malgré cela, la vie de l'exploitation est bouleversée, témoigne Emeline Terrien, la fille du maraîcher.
En termes de production, ça modifie beaucoup, parce qu'on a beaucoup de choses, de produits, notamment des épinards, de la salade, on est obligé de jeter. Parce qu'on ne peut pas les vendre aux grossistes, dans le sens où les grossistes n'arrivent pas à vendre eux aux grandes surfaces.
La famille Terrien assure aussi une centaine de commandes par jour pour livrer des personnes âgées, des malades, des médecins, plus les clients du drive du grand marché couvert de Nantes.
Béatrice Duguay, invitée de ce journal, le vice-président de l'Association des maires ruraux de France, Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors un mot sur les marchés. À votre connaissance, beaucoup de dérogations ont-elles été demandées au préfet ?
Tout dépend les départements. Il y a des départements où beaucoup de dérogations ont été accordées. Dans le département des Vosges, il n'y en a pratiquement aucune puisqu'il n'y a plus qu'un marché d'ouvert au niveau du département.
Alors, un mot aussi des petits commerces dans vos communes, notamment les communes rurales. C'est un vrai problème, ces petits commerces qui n'ont plus personne. C'est le cas, je crois, chez vous.
Oui, alors, pour finir sur les marchés, ça met quand même en difficulté les producteurs locaux. Donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau des communes, et notamment des communes rurales, on s'organise de manière à accompagner ces producteurs pour une distribution de leurs produits. En ce qui concerne le commerce local, effectivement, si je prends l'exemple de ma commune, on a un café-restaurant qui, par obligation, est fermé, forcément. Eh bien, ce café-restaurant a beaucoup de chance de ne pas pouvoir continuer son exploitation. Ce qui fait qu'il y a un réel problème dans nos villages par rapport au peu de commerces existants. Et ils auront dû, je pense aussi à quelques artisans, et ils auront du mal de rebondir après cet épisode de confinement qui va durer, il faut être clair, qui va durer encore tout le mois d'avril, voire plus.
Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu ?
Alors, tout simplement, ce que l'on a prévu, il y a deux choses. Premièrement, la commune en tant que telle, là, ne peut pas être la réponse. La commune, elle a la réponse pour tout ce qui est de proximité vis-à-vis de ses habitants. C'est-à-dire faire le nécessaire, être le seul service qui reste encore ouvert. Par contre, pour ce genre de situation, nous sommes en train d'organiser au niveau de l'Association des maires ruraux de France, avec une fondation qui s'appelle Bouge ton coq, nous sommes en train d'organiser une sorte d'appel à la bonne volonté, mais surtout à des financeurs, de manière à pouvoir rediriger ces fonds sur le petit commerce en fonction d'un cahier des charges qu'on est en train de mettre au point.
D'accord, c'est l'association, vous dites, Bouge ton coq.
C'est l'association Bouge ton coq. Mmh. Et ça doit se faire également en partenariat. Vous savez, moi je suis un ancien commerçant. Je ne serai pas en retraite, je serai dans une situation très difficile. Donc je comprends ces situations. Et donc la chambre de commerce et les chambres de commerce doivent certainement être associées à cette définition pour que effectivement tout ne s'arrête pas au niveau de ces petits commerces qui ne peuvent plus ouvrir à l'heure actuelle. Quoi.
Alors Michel Fournier, il y a les petits commerces qui sont en difficulté, il y a aussi beaucoup de personnes isolées, donc beaucoup d'initiatives sont prises au niveau local, beaucoup de solidarités nouvelles s'organisent.
Oui, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, l'Association des maires ruraux de France a établi dès le premier jour, un plan d'action mairie engagé. Et cet plan d'action, c'est en fait le retour de toutes les expériences qui peuvent se dérouler à travers la France, à travers ces communes, où on s'occupe de contacter les personnes âgées, les personnes isolées, de trouver des solutions pour le portage éventuellement de repas ou de leurs courses, ou pour éviter que ces personnes qui n'ont pas de réponse de mobilité puissent effectivement trouver des solutions. Et là, c'est là qu'on voit l'importance de la commune. Vous voyez, on a vilipendé pendant très longtemps la commune, et notamment la commune rurale, ainsi que les élus locaux, et puis on s'aperçoit que c'est souvent eux, et aujourd'hui, concrètement, c'est eux souvent la seule réponse localement.
Évidemment, et les Français sont tous attachés à leur commune, donc rendez-vous bien sûr pour tout renseignement sur le site de l'Association des maires ruraux de France. Merci à vous Michel Fournier. Parmi les mesures, les initiatives qui peuvent être prises au niveau local, il y a toujours les couvre-feux qui se multiplient. Les 5 archipels de Polynésie française à leur tour sont passés sous couvre-feu. Sur le front social, pendant ce temps, la mort d'une salariée de Carrefour à Saint-Denis et d'un intérimaire de Manpower en mission chez FedEx à Roissy, avec également le cas confirmé d'un employé d'Amazon à Saran près d'Orléans, tout ça suscite une inquiétude grandissante chez tous ceux qui continuent d'aller au travail. Les syndicats montent au créneau pour réclamer de meilleures protections ou bien carrément l'arrêt des activités non essentielles et urgentes. C'est le cas tout particulièrement dans les entrepôts d'Amazon, Maxime Deps.
Amazon a beau expliquer avoir augmenté les distances de sécurité, avoir disposé des échantillons de gel un peu partout ces derniers jours, les syndicats continuent d'alerter. Julien Vincent, délégué central CFDT.
Chaque article est manipulé à main nue, transmis aux collègues, qu'il transmet encore au suivant, etc., etc. On peut faire ce qu'on veut sur les distances de sécurité, le virus ne meurt pas sur le bouquin ou sur le remballage plastique des DVD.
Les DVD qui continuent à sortir des entrepôts, alors même que la direction s'est engagée il y a quelques jours à d'abord privilégier les articles de première nécessité.
Ça n'a pas bougé. On continue à vendre des DVD, des sextoys, de l'engrais pour jardin, des ballons, un peu de tout. Et pour tout ça, des milliers de salariés qui pénurient.
Aujourd'hui, la moitié des employés en CDI ne viennent plus, assure ce syndicaliste. Certains font valoir leur droit de retrait, sachant très bien qu'ils risquent de ne pas être payés. Amazon estimant que ce droit de retrait n'a pas lieu d'être, que les mesures de protection mises en place sont suffisantes. La CFDT, elle, envisage des poursuites.
On ira au carton. Ça commencera par des référés prud'homaux pour les salaires. S'il faut qu'on aille au fond et au pénal pour faire reconnaître la responsabilité des dirigeants, on le fera aussi.
Ce syndicaliste qui s'interroge, que fait le gouvernement là-dedans ? Il exige le confinement mais laisse Amazon faire son business. Tout ça n'a aucun sens.
La situation sociale face au coronavirus, on en parle ce soir dans un téléphone sonne spécial animé par Alexandra Ben Saïd avec notamment Philippe Martinez. Au niveau européen, c'est tout l'édifice de l'Union qui risque de perdre sa raison d'être. Avertissement du chef du gouvernement italien Giuseppe Conte qui appelle l'Europe à ne pas commettre d'erreurs tragiques face à l'épidémie. L'inertie, dit-il, laisserait à nos enfants le fardeau immense d'une économie dévastée. Et c'est ce qu'explique aussi le président Macron dans la presse italienne, le président français qui se dit favorable à des emprunts corona, au contraire des Allemands qui sont toujours réticents à créer de l'endettement. Et pourquoi le dit-il à la presse italienne ? Eh bien pour répondre aux critiques venues de Rome et qui accusait la France d'avoir ignoré les signaux italiens. Inexact, répond Emmanuel Macron, plus décidé que jamais à monter lui-même au front, comme le fait aussi son Premier ministre, qui est intervenu 2 fois de suite hier en direct sur toutes les chaînes. Élodie Forêt, l'exécutif resserre les boulons sur sa communication de crise.
Terminer la communication en ordre dispersé, place à la communication resserrée avec hier un recadrage en règle des ministres par Édouard Philippe. Après les couacs des derniers jours, Sibeth Ndiaye et sa petite phrase sur les enseignants qui ne travaillent pas, Didier Guillaume et son invitation à aller dans les champs pour aider les agriculteurs, le Premier ministre appelle à davantage de maîtrise. Les membres du gouvernement devront désormais s'exprimer avec parcimonie. Tous les éléments de langage seront arbitrés par Matignon. Édouard Philippe qui recadre donc et qui monte lui-même au front. Hier, 2 interventions. Aujourd'hui, un point presse prévu vers 16h. Accompagné du ministre de la Santé, il promet de répondre à toutes les questions que se posent les Français. Masques, tests, traitements, sur tous ces dossiers brûlants, le Premier ministre prend la main. Seul garant désormais avec le président d'une parole publique cohérente.
Et puis, s'agissant de l'Europe, une voix forte dans ce domaine, celle de Jacques Delors qui confirme ce que disait Giuseppe Conte et Emmanuel Macron. Le manque de solidarité fait courir un danger mortel à l'Union européenne, explique à l'AFP l'ancien président de la Commission européenne, âgé aujourd'hui de 94 ans. À chacun son rythme dans cette lutte contre l'épidémie à travers le monde. Aujourd'hui, c'est l'Irlande qui décide à son tour le confinement total de sa population. Le président mexicain change également de pied en appelant ses compatriotes à rester chez eux autant que possible. Et puis le président russe, Vladimir Poutine, se décide enfin à fermer les bars et restaurants dont les moscovites ont pu profiter hier soir une dernière fois. Jean-Didier Revoin.
Pour un vendredi soir, la fréquentation de ce pub du centre-ville est plutôt restreinte. Le point positif, pas besoin de réservation pour trouver une table. Depuis quelques jours, le deuxième étage de l'établissement est même fermé. C'est la preuve qu'une certaine appréhension s'est emparée d'une partie des moscovites, mais cela n'empêche pas certains, comme Ina, de profiter de leur soirée. Je suis venu ici parce que c'est la dernière fois et je m'apprête à suivre scrupuleusement toutes les instructions. Je sais qu'une longue période à la maison nous attend avec un enfant en bas âge. Et donc oui, on peut dire que c'est la dernière fois que je me détends. Si les autorités n'ont pas imposé le confinement, elles ont décrété que la semaine prochaine serait chômée et incité la population à rester à la maison. Seuls les magasins d'alimentation et les pharmacies resteront ouvertes. Une tentative de freiner la propagation du coronavirus qui est plutôt bien accueillie. C'est une bonne décision. On aurait peut-être pu la prendre plus tôt parce que tous les pays sont déjà dans une mauvaise situation et je ne voudrais pas qu'il se passe la même chose ici. À ce jour, officiellement, 1036 personnes souffrent du virus et 4 en sont mortes. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
20 000 Français sont encore retenus à l'étranger dans l'impossibilité de rentrer. 110 000 d'entre eux, expatriés ou touristes, ont pu regagner l'Hexagone depuis le début de cette crise sanitaire. À l'inverse, des étrangers sont bloqués en France avec un visa en voie d'expiration. La réduction drastique du trafic aérien les empêche de rentrer chez eux. Les services préfectoraux chargés des visas étant qui plus est fermés. Mais beaucoup de ces étrangers se retrouvent en situation délicate. C'est le cas dans cette famille qu'a rencontré Julie Pietri à Paris.
Quand Pierre accueille sa belle-mère chinoise en vacances au mois de janvier, il est loin de se douter qu'elle restera chez lui plusieurs mois. Originaire de Wuhan, foyer du coronavirus en Chine, son vol retour est rapidement supprimé. Elle achète ensuite un nouveau billet, puis un autre, tour à tour annulé. Et cela risque de ne pas s'arranger puisque la Chine vient d'annoncer une réduction drastique de ses vols en provenance de l'étranger à partir de ce dimanche.
Quand on lui a annoncé à ma belle-mère que son vol du 31 mars était annulé lui aussi, pendant une partie de la soirée, elle répétait « Wo xiang hui jia », qui veut dire « je veux rentrer à la maison ». Comme son visa est valable 3 mois, je suppose que si elle dépasse les 3 mois, elle se retrouve en situation irrégulière.
La question maintenant, comment faire prolonger ce visa alors que la préfecture de Paris, dont dépend cette famille, a fermé ses portes aux ressortissants étrangers ?
On a reçu un message de la préfecture nous disant que le rendez-vous était annulé, enfin sans aucune consigne complémentaire.
Si la préfecture de Paris ne leur a pour l'instant pas donné de marche à suivre, l'État précise que plusieurs préfectures traitent dès maintenant en France les demandes à distance, en ligne. C'est le cas de la préfecture de Haute-Savoie ou de l'Essonne, pour ne citer que quelques exemples.
Dans ce type de situation, il y a toujours des petits malins qui profitent de l'épisode. 3 personnes ont été interpellées ce matin dans les Alpes-Maritimes pour trafic et vente de masques FFP2. Ils s'étaient fournis en Tunisie. Avant-hier, une pharmacienne niçoise a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Elle vendait aux particuliers des masques destinés aux soignants et du gel hydroalcoolique qui n'en était pas. C'était en fait du gel servant aux échographies. Et puis, un homme a été mis en examen à Paris après la découverte de 23 000 masques de protection qu'il revendait illégalement. Il stockait sa marchandise dans un véhicule utilitaire. En sport, conséquence inattendue de cette situation inédite, que faire des droits télé de la Ligue 1 quand on s'appelle Canal+, et qu'on est censé diffuser des matchs qui n'existent plus? Réponse, on ne paie pas. Information du journal L'Équipe, le patron du groupe Canal, Maxime Saada, l'a très clairement signifié à la Ligue de football professionnel, Jean-Pierre Blimaud. Il n'est pas envisageable pour lui de payer les échéances à venir.
Canal+ refuse de s'acquitter d'une somme de 110 millions d'euros qui devaient être payés début avril, car pour le moment, rien n'indique que les championnats vont reprendre et aucune date n'est envisageable. Maxime Saada, le patron du groupe, l'a clairement écrit dans un courrier adressé à la Ligue, indiquant également que son groupe subissait de plein fouet les conséquences de l'épidémie. Une source d'inquiétude supplémentaire pour les clubs professionnels français, dont les finances dépendent pour un bon tiers des droits télévisés, des clubs par ailleurs privés d'une autre partie de leurs recettes en l'absence de matchs. L'inquiétude est d'autant plus grande que la situation est inédite. Et même si les championnats reprenaient, rien n'indique que le calendrier, forcément bouleversé et vraisemblablement resserré, ne permettra aux chaînes d'offrir les prestations négociées par contrat, en termes d'horaire de diffusion par exemple. Pour sa part, la Ligue de football professionnel souhaite que l'intégralité des sommes négociées par contrat soit réellement versée aux clubs, qui vont de toute façon se retrouver dans la difficulté.
Et puis il y a Bein aussi, donc autre diffuseur de la Ligue 1, qui de son côté doit 42 millions à la Ligue. Allez, comment s'occuper pour ce deuxième week-end de confinement ? France Inter a des idées, des suggestions qu'on peut bien sûr retrouver sur le site. Dans ce 13h, piqûre de rappel concernant la BD de Pénélope Bagieux, culottée, et ES, moult fois primée, y compris aux États-Unis par le prestigieux Eisner Award. Culottée, qui est devenue une série animée sur France 5 et RT TV, 30 épisodes de 3 minutes 30, qui retrace des destins de femmes ayant par leur action vaincu les préjugés, des petits modules auxquels Cécile de France a prêté sa voix et que Jacqueline Pétros a beaucoup aimé.
Elles s'appellent Edith Lamarr, Joséphine Baker ou Peggy Guggenheim parmi les plus connues. Elles sont impératrices, gardiennes de phare, guerrières apaches, gynécologues, femmes à barbe ou nageuses. Qu'elles aient vécu en Grèce avant Jésus-Christ ou qu'elles soient contemporaines, c'est parfois au péril de leur vie qu'elles ont fait bouger la société en disant « ça ne va pas se passer comme ça ». En quelques minutes d'animation, leur audace et leur détermination forcent l'admiration, comme la jeune rappeuse Sonita Alizadeh, née en 96 en Afghanistan.
La famille de Sonita quitte le pays pour l'Iran.
Sauvée ! Non, des talibans !
Toutes les jeunes filles n'ont pas échappé au mariage forcé.
C'est révoltant ! C'est quoi ce truc ? On peut chanter sa colère ? Je vais rapper notre histoire au monde entier, coûte que coûte ! Je le mets sur YouTube ! 600 000 vues!
Bonjour Sonita, je travaille pour une association américaine. Ça te dirait de venir faire des études aux États-Unis?
Oh, oui!
Sonita continue à chanter en espérant changer le destin des autres filles et pouvoir rapper un jour en Afghanistan.
Ce qui compte, c'est de trouver le moyen de faire entendre sa voix.
C'est en constatant que les héroïnes féminines sont trop souvent invisibles que Pénélope Bagieux s'est fait écho de ses destins, déclinés ici en court programme animé, tout à fait indispensable.
Tout à fait indispensable, les culottés de Pénélope Bagieux sur France 5 et Arte TV. Le temps avec Jean-Michel Golinski.
Vers un temps de plus en plus froid ces prochains jours, avec des chutes de neige à très basse altitude à partir de demain. Aujourd'hui, le vent de nord-est, très sensible sur toute la moitié nord du pays, va donner cet après-midi des valeurs de température ressenties très fraîches, sous un ciel devenant variable au fil des heures, du nord de la Seine au quart nord-est. Il sera beaucoup plus gris et possiblement pluvieux sur la Bretagne, la Basse-Normandie et les pays de la Loire. Dans la moitié sud, maintien d'une relative douceur cet après-midi entre 16 et 18 en général, sous un ciel qui se dégage par rapport aux jours précédents, notamment dans le quart sud-est, mais avec le retour du Mistral et de la Tramontane. Demain, maintien d'un vent de nord-est turbulent dans la moitié nord du pays, également du Mistral et de la Tramontane, avec du soleil pour le golfe du Lion, mais un régime de pluie ou d'ondées sur les autres régions, accompagné de neige à des altitudes de plus en plus basses en soirée sur les massifs, voire jusqu'en plaine.